ce qui a été demandé au Seigneur, nous avons l'assurance que lui nous répondra, car nous avons demandé des choses qui sont selon sa volonté. Et quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, l'Écriture nous dit que nous savons qu'il nous écoute et que nous savons aussi que nous avons la chose et que nous lui avons demandé. Et vous avez demandé que cette parole puisse nous toucher. Et moi, je demande aussi qu'elle me touche encore ce soir. Je vais relire ce texte de Juges, verset 9, cette petite fable, ce qu'on appelle un apologue, sur les arbres. C'est Jotham, le survivant là, des fils de Gédéon, qui fait ce petit discours au Sichémite, verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête, et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent alors au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Vous connaissiez tous cette petite fable qui nous parle des arbres. Et j'ai pensé cet après-midi, en me recueillant devant le Seigneur, à cette histoire du buisson d'épines qui accepte. Le buisson d'épines accepte. Et vous allez avoir M. Reagan. Bientôt, je ne dis pas que c'est lui le buisson d'épines. Mais peut-être qu'on va lui parler des arbres à lui, ici. Enfin, je l'espère. Et j'ai pensé à ce chapitre 10 pour vous montrer combien la parole a tout dedans. Vous avez tout dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 10 d'Ésaïe, il y a quelque chose qui nous parle de cette destruction des arbres et des forêts qui peuvent être complètement décimées. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas fait le bon choix, hein, c'est les épines qui règnent sur les arbres. Prenez le chapitre 10. Et on se glorifie dans notre temps. Je vous dis seulement ça en parenthèse, mais pour montrer comme, au fond, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, mais je voudrais vous donner encore des pistes de réflexion. Chapitre 10 d'Ésaïe, où le Seigneur, et on ne se moque pas de lui, hein, il sait nous parler. Et le Seigneur nous avertit, et nous dit ceci au verset 12. Le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Et que dit-il? Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse que je suis intelligent. j'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Que ce soit la Russie ou que ce soit l'Amérique, hein, vous avez ces grands plans, ils veulent ramasser tout. Et puis, qu'est-il dit encore ? J'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi les robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. En qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Les forêts qui tombent en défaillance et qui ont une maladie, il en sera comme d'un malade. Nous avons nos forêts qui sont vraiment malades et qui tombent en défaillance. C'est écrit dans l'Écriture. Et puis, lisez un peu plus loin. Le reste des arbres de sa forêt pourrait être compté par qui ? Par un de vos petits-enfants qui était là. Ils ne savent pas encore compter beaucoup. Eh bien, c'est dit dans l'Écriture. Le reste des arbres de sa forêt pourrait être compté et un enfant en écrirait le nombre. Vous rendez-vous compte ? Jusqu'où ça peut aller, la destruction des forêts, la destruction des arbres, à un tel point qu'il en reste si peu que l'Écriture dit qu'un enfant pourrait en écrire le nom. Ben c'est dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? C'est les dernières nouvelles. Et on ne lit pas la parole, hein. On ne se nourrit pas de la parole. On lit les journaux, mais les dernières nouvelles sont dans la Bible. On pourrait, un enfant pourrait en écrire le nom. Je vous dis ça simplement en passant, mais je me suis vraiment rendu compte en priant cet après-midi que je ne faisais qu'effleurer mon sujet. Et je souligne que Dieu nous parle des arbres. Ouvrez vos Bibles à nouveau, prenez le premier chapitre de la Genèse, il est question des arbres, c'est le Créateur qui les a faits, il les a fait beaux, il les a fait agréables, il a voulu que leurs fruits soient pour notre nourriture. Et puis, il compare l'homme, comme nous l'avons vu, à un arbre, de sorte que nous avons un tas de leçons à apprendre. Dieu nous parle, non seulement par les animaux, interroge les bêtes, elles s'instruiront, mais il nous parle aussi par les arbres. Et je vous souligne simplement encore ce qu'il est dit dans les psaumes, psaume premier, où vous avez le secret de la réussite, eh bien, c'est un arbre qui est cité. Le juste, n'est-ce pas, qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas au chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas au siège des moqueurs, eh bien, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui se nourrit de la parole, qui a ses pieds dans l'eau, comme le palmier, n'est-ce pas? Eh bien, il est comme un arbre. Il est comme un arbre. C'est Dieu qui nous dit ça, donc on peut retrouver des leçons. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, et il est dit que son feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait prospère. Secret de la prospérité, souvenez-vous, que vous pouvez être enseigné par les armes. Maintenant, j'ai cité aussi Jérémie 17, et je le cite encore une fois, parce que c'est des versets tout à fait et qui sont importants. « Maudit l'homme qui se confie en l'homme. » En qui allez-vous mettre votre confiance? En M. Reagan, dans ce qu'il va faire? Attention, maudit l'homme qui se confie en l'homme et dans les décisions que les hommes vont prendre. Parce que les hommes, justement, ils veulent faire porter des fruits à des arbres qui sont mauvais. Et le Seigneur nous a dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, et puis un bon arbre ne portera pas de mauvais fruits. Alors, en qui devons-nous mettre notre confiance? Alors, maudit l'homme, chapitre 17 de Jérémie, qui est un texte aussi capital, parce qu'il nous est dit que le cœur, là, est trompeur, désespérément malin par-dessus tout, qu'il connaît. Alors, verset 5 du chapitre 17. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni l'homme et qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse pas de porter du fruit. Et il me semblait comme entendre dans mon cœur le gémissement de toute la nature aujourd'hui, qui est dominée par Satan, le prince de ce monde, le roi des épines. C'est les épines qui dominent dans ce monde. Eh bien, il est dit que toute la création, lisez Romains 8, elle est dans la souffrance, elle est en travail. Les arbres souffrent. Nous, nous souffrons. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que les arbres aussi souffre. Toute la création est en travail et dans la souffrance à cause du péché de l'homme, parce que l'homme se glorifie, parce que l'homme s'élève. Et le Seigneur va entrer en jugement avec ce monde. Et nous allons le voir, nous sommes dans des temps sérieux. Mais quelle espérance pour nous. Nous n'allons pas mettre notre confiance dans les hommes. Nous n'allons pas penser que grâce à ces grandes conférences, il y a quelque chose qui va changer. Nous allons nous confier de tout notre cœur dans le Seigneur pour la fin de notre témoignage ici-bas. Et alors, eh bien, comment serons-nous? Eh bien, comme on l'a vu dans le chapitre 52 des psaumes, vous serez comme un olivier vert. Voilà ce que vous êtes, un olivier vert. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous êtes déjà dans les parvis de notre Dieu. Et cela, je vous le souligne encore, avant d'aller plus loin, dans le chapitre 52 des psaumes, il dit, moi, je suis dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, moi, je suis dans le parlement, moi, je suis dans ceci, moi, je suis dans ça. Moi, je suis dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Alors, souvenez-vous de cet olivier vert. Vous êtes un olivier vert. Et demain matin, nous serons encore dans cette maison qu'il est, la maison du Seigneur, parce que nous nous réunissons ensemble autour de lui et il y a sa présence, et bien que nous puissions venir ici et expérimenter que nous sommes cet olivier vert et que nos enfants soient aussi reconnus comme des plants d'olivier autour de la table. Et nous aurons sa bénédiction, comme il est dit au psaume 128. Et puis, je vous ai parlé, alors, ce matin encore, du psaume 92, où il était question, je cite encore, les justes, pour bien montrer que les justes sont comparés à des arbres, verset 13, les justes croissent comme le palmier. Alors, on a étudié la croissance du palmier qui a besoin d'eau et de soleil, hein. Et puis, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous me direz, mais vous vous êtes arrêté surtout sur le palmier, mais vous nous avez pas dit grand-chose sur les cèdres. Mais évidemment, je ne peux pas tout traiter. Et j'ai pensé que sur les cèdres, vous en saviez beaucoup plus peut-être que sur le palmier. Non pas, j'ai des prétentions d'en connaître plus que vous, n'est-ce pas? Mais je sais que sur les cèdres, eh bien, vous avez certainement des connaissances. Mais j'aurais pu vous citer 72 versets qui nous parlent des cèdres à travers les Écritures, de sorte qu'on y serait encore si on avait commencé sur les cèdres du Liban. Mais vous voyez, le croyant, il est dans la chaleur, dans le désert, comme un palmier. Donc, ses fruits ne dépendent pas du lieu où il se trouve. Il est dans le désert, mais dans le désert, c'est le roi des plaines, parce qu'il y a l'eau où il se trouve, et puis il y a le soleil. Et il porte des fruits, et on a vu tout ce qu'on peut faire avec un palmier en plein désert. Mais le croyant est comparé aussi à un cèdre, et le cèdre, si le palmier est le roi des plaines, le cèdre, c'est le roi des montagnes, le roi vraiment des forêts, le roi des grands frimas, le roi des grands froids. Eh bien, peut-être que nous aurons encore dans des épreuves où nous devrons connaître le froid d'une manière ou d'une autre, mais nous serons comme le cèdre. Vous gardez cette image. Il fait froid. Eh bien, oh Dieu, tu as dit que je serais comme le cèdre. C'est ça qui compte. C'est que vous acceptiez d'être ce que Dieu dit que vous êtes. Hein. Vous êtes comme le palmier, puis vous êtes comme le cèdre, suivant les épreuves par lesquelles vous passez. Et vous serez comme le cèdre, ce cèdre du Liban, qui est alors l'emblème de la majesté, de la force, de la puissance, de la beauté. Regardez le tronc d'un grand cèdre, regardez ses grandes branches qui nous parle de cette stabilité et aussi de la longévité extraordinaire qu'a le cèdre, et qui est un bois pour ainsi dire incorruptible, qui est à l'abri des insectes, qui est inébranlable sous le vent. Le vent peut souffler, mais le cèdre, eh bien, plonge ses racines au plus profond de la terre, il reste toujours vert, et le cèdre est, alors à travers toute la Bible, le symbole du juste qui triomphe de tout. Est-ce que nous allons triompher de tout? Tu es un cèdre. Tu vas triompher de tout. Et quand je dis tout, il y a tout. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Et il y a tout dedans. Alors, tu es comme le cèdre, c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. Le juste, il est comme le palmier, mais il est aussi comme le cèdre. Alors, étudiez vous-même, à travers l'Écriture, tout ce qui est dit du cèdre. Il nous parle aussi de la pureté, puis il est agréable aux yeux de Dieu, et il est parfumé, il parfume. Et bien que nous soyons de ces cèdres du Liban, cette forêt qu'on appelait la forêt embaumée, la forêt parfumé. Quand nous nous réunissons le dimanche matin, qu'il y ait beaucoup de cèdres, hein, et on respirera un bon parfum, et le Seigneur sera heureux. Car c'est le Seigneur qui sera vraiment glorifié au milieu de nous. Alors, reprenons toutes ces leçons. Mais j'aurais pu aussi vous parler des chênes, j'en ai pas dit grand-chose. Hein. Et les chênes, ils sont souvent mentionnés dans l'Écriture, et je vous le signale encore, Abraham a été beaucoup avec les chênes. La première étape, il était au chêne de Morée, dans le chapitre 12 de la Genèse. Il a habité sous les chênes, et Dieu lui est apparu sous les chênes. Ensuite, dans la seconde partie de sa vie, il était sous les chênes de Mamré, près d'Hébron, et c'est là que le Seigneur, avec les deux autres anges qui allaient sur Sodome, l'a trouvé pendant qu'il faisait la sieste sous les chênes. Vous pouvez être visité par le Seigneur quand vous êtes sous les chaînes, au moment de faire la sieste. Nous qui disons, oh non, non, je suis tellement Seigneur, moi, j'ai plus de temps pour la sieste. Tu ferais mieux de faire la sieste, ça irait beaucoup mieux. Spirituellement, le Seigneur te visiterait, parce que tu as besoin de repos, peut-être. Et vous savez, on est dur, mais le Seigneur, il a visité, j'aime beaucoup ça, dans le chapitre 18, il a visité Abraham pendant qu'il faisait la sieste. Puis alors Abraham s'est réveillé, il a couru au devant de ces trois personnages, et puis il leur a dit, restez sous les chênes, hein, restez sous l'arbre. Puis moi je vais vite aller vers Sarah pour lui demander de vous préparer un petit repas. Et je trouve ça admirable. On voit le père Abraham qui court vers Sarah, prépare ceci, prépare cela, il demande à un serviteur de préparer le veau. Puis il a dit à ses voyageurs, restez sous l'arbre. Et qui c'était ces voyageurs? Il y avait le Seigneur lui-même, avec ses anges. Et ils sont restés sous l'arbre, puis ils ont attendu le repas. Puis après ils ont mangé sous l'arbre. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Manger sous l'arbre. Vous faites des pique-niques? Quand vous mangez sous un arbre, avec vos enfants, peut-être, vous pourriez penser à ça, puis vous pourriez leur raconter une histoire. Le Seigneur a été aussi sous les arbres. Et puis, il a mangé ce qu'on a mis devant lui, ce que la chère Sarah a fait. Puis il avait une bonne nouvelle à annoncer à la vieille Sarah. Quel rajeunissement, elle va avoir un enfant. C'est fantastique, hein. Et tout ça, ça se passe dans la nature, là. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors voilà, on aurait pu parler beaucoup des cèdres et des chênes. Hein, le chêne. Alors les chênes, si on parle des cèdres du Liban, les chênes les plus réputés, c'était les chênes de Bazan. Mais il faut dire aussi que quelquefois les chênes de Bazan étaient très vigoureux, mais ils pouvaient aussi représenter l'orgueil de l'homme. Hein. L'homme qui se croit un chêne et qui n'est qu'un petit roseau. Attention à cela. Hein. Faut pas se croire un chêne quand on n'est qu'un roseau. Hein. Le Seigneur vous demande pas d'être un chêne si vous n'êtes qu'un roseau. Hein. Alors, laissez-vous plier, n'est-ce pas? Mais faites attention. Alors, acceptons d'être ce qu'on est. Je suis une petite nature, mais le Seigneur est grand. Mais le Seigneur est grand. Mais le Seigneur nous parle aussi des chênes. Alors il y a le chêne de Morée, le chêne de Mamré, il y avait un chêne qu'on appelait le chêne de Tabor, dont je pourrais vous parler, qui est au pied du mont Tabor, de la Transfiguration, vous avez tout cela dans l'Écriture, puis les fameuses chênes de Sichem. Et puis je vous disais que si je voulais parler sous des arbres, j'aurais pu suivre tout simplement l'ordre alphabétique, hein. On aurait commencé par A, puis on en a cité quand même l'acacia par exemple, c'est l'arbre du désert qui a servi à faire le tabernacle. Puis après, qu'est-ce qu'on a cité, qui commence aussi par A? L'amandier, n'est-ce pas? Et on a vu que le symbole de l'amandier, c'est que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Vous pouvez être sûr, si vous vous êtes emparé d'une promesse, le Seigneur dit, je veille pour accomplir cette promesse. Il y aura un accomplissement de la promesse, mais emparez-vous de la promesse. Tes paroles se sont éprouvées, je les ai mangées. Et les manger, c'est aimer tellement sa parole qu'on les introduit en soi. Hein. Et on y croit, et on n'est pas déçu. Alors, on a parlé de l'amandier, puis alors, on aurait pu aller plus loin, puis j'aurais dû vous parler du grenadier. Et il est parlé souvent aussi du grenadier, qui est grandement apprécié et qui est d'une beauté. J'aime beaucoup les grenadiers. Quand je m'en vais dans le jardin de l'Assemblée messianique à Jérusalem, il y a un beau grenadier. Et quand c'est la saison, ces grenades, mais sont tellement belles. On comprend que le bien-aimé du Cantique des Cantiques parle de sa bien-aimée, ses joues sont comme des grenades. Hein. Il y a une belle couleur rouge un peu, enfin, mais pas trop, c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment parfait comme grenade. Et puis alors, quand vous ouvrez une grenade et que vous voyez tous ces petits grains, n'est-ce pas, puis le jus des grenades, combien c'est bon. Je te donnerai du jus de mes grenades. Il parlait beaucoup dans le Cantique des Cantiques des grenades. Et le fruit est tellement beau comme forme, hein, que c'est devenu un fruit ornemental. Vous savez que dans la robe du souverain sacrificateur, au bas de sa robe, il y avait une clochette et une grenade. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. Tout autour de sa robe, en bas. Alors quand il marchait, on pouvait voir des grenades, hein, à ses pieds, puis on entendait la clochette. Donc il s'avance et il s'approchait. Puis sur les colonnes, les deux colonnes du temple de Jérusalem, Salomon a mis tout au haut des grenades. Et il avait sculpté des grenades. Parce que la grenade, c'est un fruit tout à fait décoratif, je dirais un fruit ornemental. Et vraiment, le jus des grenades, je l'aime beaucoup et on l'apprécie. J'en ai bu en Galilée pas mal. Et alors, passons plus loin, puisqu'on ne peut pas s'arrêter sur tout, mais disons que dans les psaumes encore, je pense le psaume 104, vous trouveriez encore beaucoup de versets qui vous parlent des arbres, mais j'aime bien ce psaume 104, parce que verset 16, il est dit ceci. Donc tout est attribué à Dieu. Nous, nous attribuons tout à notre travail, nous attribuons tout à ce que l'homme fait, au lieu de nous attendre au Seigneur. Et vous voyez, je vais vous lire depuis le verset 12. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord, le bord des champs, hein, bon. Ils font résonner leur voix. Vous les entendez, les oiseaux aussi, hein? Donc ils nous parlent, les oiseaux. Parmi les rameaux des arbres, hein? De sa haute demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, voilà vos légumes, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Vous retrouvez là ce que nous avons lu dans les juges, hein, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, qui réjouit aussi le cœur de Dieu. Et fait plus que l'huile resplendir le visage. Vous retrouvez l'huile là, hein, vous retrouvez le vin, donc fruit de la vigne, mais vous retrouvez l'huile, fruit de l'olivier. On a parlé de l'olivier ce matin. Et on aurait pu parler de l'huile à travers toute l'écriture. Et aussi on a dit que l'huile servait pour donner de la lumière. Dans le Nouveau Testament, où est-ce que vous voyez que l'huile donnait la lumière? Qu'est-ce qui manquait à certaines vierges? Il manquait l'huile, hein? Elles n'avaient pas pris l'huile avec elles, c'est le fruit de l'olive. Il manquait d'huile et leur lampe s'éteignait. Donc vous voyez que l'olivier donne aussi la lumière, comme il donne aussi la chaleur et bien les choses. Mais vous retrouvez tout à travers l'écriture. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Verset 16. Les arbres, j'aime beaucoup cette expression, c'est les arbres de qui? De l'Éternel. Les arbres sont à l'Éternel. Et nous, est-ce que nous ne sommes pas à l'Éternel? Les arbres de l'Éternel, et vous êtes les arbres de l'Éternel, vous autres. Vous valez beaucoup mieux que les arbres, vous valez beaucoup mieux que les lys des champs. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Alors vous voyez, les arbres de l'Éternel se rassasient. Puis nous, on n'est pas nourris. Vous pouvez être rassasiés. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Je demande à Dieu que dans ces journées, vraiment, on se soit rassasiés de ce que le Seigneur donne. Parce que les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban, vous voyez qu'on retombe sur nos cèdres. Les cèdres du Liban, qui l'a planté? C'est Dieu qui vous a planté. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée, sera ôtée. Vous êtes une plante que le Seigneur a planté. Alors ça vous donne de l'assurance. Il y a des vents, il y a des moments difficiles, mais c'est lui qui vous a planté. Vous ne serez pas déraciné. Vous n'avez pas besoin de vous appeler racine. Vous ne serez pas déraciné. Croyez-le bien. Si vous êtes fondé et enraciné dans l'amour du Seigneur, et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte dans vos vies quotidiennes. Puis vous voyez, verset 17, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Vous voyez comme c'est bien observé. Les cyprès, sur la hauteur des cyprès, la cigogne peut faire sa demeure. Alors j'aurais pu vous parler des cyprès. Et encore, le Seigneur dans Osée nous dit qu'il sera pour nous comme un cyprès vert. Et si demain nous nous sommes rassemblés, eh bien j'espère que nous aurons l'occasion de nous rendre compte que le Seigneur est vraiment un cyprès vert Vous voyez, au chapitre 14 d'Osée aussi, il est dit ceci, chapitre 14 d'Osée, verset 4. Je réparerai leur infidélité. Vous n'êtes pas d'accord que nous avons tous été infidèles dans bien des domaines, dans bien des choses? C'est vrai, hein? Nous le reconnaissons devant Dieu, nous le confessons. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je vais les abattre? Non. Il dit, je réparerai. C'est ça qu'on disait avec quelqu'un cet après-midi ou ce matin, peu importe. Quand Dieu a commencé son œuvre avec nous, même si nous faisons des erreurs, il nous corrige et nous ramène à la bonne place. C'est ça que vous devez croire. Le Seigneur achèvera son travail. Il y a peut-être encore bien à faire, mais le Seigneur a de la patience et le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il ira jusqu'au bout. Alors vous voyez, verset 4, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour hypocrite. C'est votre traduction corrigée? C'est la nouvelle version? J'aurai pour eux un amour sincère. Je ne dis pas que c'est beau, ça. Il faut des fois faire le contraire, n'est-ce pas, pour se rendre compte de la force de la parole. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée depuis nous. On pense toujours que le Seigneur est en colère. Pas vrai? Sa colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Qu'est-ce que les racines comme le Liban? Comme le cèdre. Vous serez des cèdres. C'est ça que Dieu veut. Voilà ce qu'il vous promet. Voilà votre espérance. Un arbre, il nous donne de l'espérance. Je l'ai dit, je l'ai souligné. C'est dans Job chapitre 14. Pour un arbre, il y a de l'espérance va bien. Comprenez que vous êtes un arbre aussi pour le Seigneur. Alors il y a de l'espérance. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de quoi? De l'olivier. Vous ne savez pas que c'est bon? On retombe avec notre olivier. On a parlé de l'olivier ce matin. Il aura la magnificence de l'olivier qui reste toujours vert. Et les parfums du Liban, c'est les parfums du cèdre. Comprenez? Vous êtes la bonne odeur de Christ. Vous voyez que dans ces prophètes, il y a des perles à trouver. Et que vous pouvez découvrir. Et ils reviendront s'asseoir à son ombre. Parce qu'un arbre, ça donne encore de l'ombre. Et d'autres pourront venir s'asseoir à notre ombre aussi. À l'ombre des justes, à l'ombre des croyants. Ils viendront, s'ils savent qu'il y a de l'ombre ici, ils sauront venir aussi. Ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne. De nouveau, voilà la vigne. Je parlerai demain des deux derniers points que je laisse de côté ce soir, parce qu'il m'a semblé que le figuier et la vigne, la vigue et la vigne, et le figuier vont ensemble, hein, et ça va très bien pour le culte et pour le dimanche. Alors demain on parlera du figuier et de la vigne, parce qu'on les plante ensemble, hein. Dans une vigne on met les figuiers, puis dans là où on a mis les figuiers on plante aussi la vigne. Vous trouvez toujours la vigne et le figuier ensemble, et la vigne grimpe et s'accroche aussi aux branches du figuier souvent. Alors, demain, on parlera de la vigne et du figuier, pour finir le chapitre 9 des juges. Mais vous voyez ici, ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec des idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, et je serai pour lui, quoi? Comme un cyprès verdoyant. Vous voyez que c'est beau. Hein? Le Seigneur dit que lui-même sera pour nous comme un cyprès verdoyant. Est-ce que vous aviez déjà vu cette image que le Seigneur est un cyprès verdoyant? Regardez la hauteur du cyprès. Regardez, il est aussi... C'est un arbre merveilleux dans sa stature. Voilà ce que nous voulons voir dans le Seigneur. Le cyprès verdoyant. Toujours vert. Hein. Et alors, je reviens encore dans un psaume, après vous avoir montré qu'il est question des arbres dans les prophètes. Psaume 148, ça nous prépare pour le culte de demain. Et j'espère qu'on aura un culte de louange, un culte d'adoration, un culte où on aura quelques mots à dire au Seigneur. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges. Ah, ça commence bien, hein. Louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune. Donc on n'adore pas le soleil et on n'adore pas la lune comme les Égyptiens, mais le soleil et la lune doivent louer le Seigneur. Et malheureusement les païens, ils ont adoré le soleil et la lune, alors que c'est le soleil et la lune qui devaient louer le Seigneur. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Ce serait pas que ça nous réconcilie avec tout ce qui peut arriver au point de vue de la météo? Oh, vous êtes là avec votre météo, puis vous râlez sur la météo. Mais tout ça, ça va louer le Seigneur. Hein? Je trouve que c'est merveilleux. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers. Les arbres fruitiers qui vont louer l'Éternel. Ben oui, vous êtes des arbres fruitiers. Un bon arbre, il produit des fruits. Alors, eh bien, arbre fruitier, louez-le. Et tous les cèdres, il n'est pas dit quelques cèdres, n'est-ce pas? Tous les cèdres doivent louer. Animaux et tout le bétail, il n'est pas question d'adorer les animaux, mais c'est les animaux qui doivent louer l'Éternel. Reptiles et tout oiseau, et les rois de la terre, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes, et jeunes filles, vieillards. Et puis qui? Et enfin, alors vous comprenez bien pourquoi on fait des camps d'enfants. Il manquerait. Les enfants aussi louent le Seigneur. Mais nous, on est agacés. Mais c'est que nous, on ne comprend pas leur langage, souvent. Mais c'est une louange par la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il a établi ses louanges. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de tous les cieux. Il a révélé la force de son peuple. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Vous êtes le peuple qui est près de lui. Laissez cette parole vous pénétrer. Soyez imprégnés, soyez imbibés de cette parole. Et alors, sans vous exalter, sans vous exciter, souvenez-vous du psaume 96 où il est dit, puisque nous sommes comparés à des arbres, que les campagnes s'égayent. Parce qu'au verset 11 du psaume 96, il est dit « Que les cieux se réjouissent. » Les cieux, ils se réjouissent quand ils voient deux ou trois rassemblés au nom de Jésus. Les cieux se réjouissent. Il y a de la joie dans le ciel pour les pécheurs qui se repentent, mais quand il y a des croyants qui s'assemblent, qui se rassemblent, soit pour des réunions de prière que vous ne devez pas négliger, parce que là vous partagez, puis vous êtes une force dans les réunions de prière, et c'est quelque chose de tellement important de prier ensemble. Si deux d'entre vous, si vous preniez ça au sérieux, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle leur sera faite. Jésus ne nous mène pas en bateau quand il dit cela. Mais il faut savoir demander en son nom, c'est-à-dire les choses que lui aurait demandées. Il faut avoir le discernement pour demander les choses que lui demanderait. Et nous les avons, et alors nous avons des actions de grâce. que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'égayent avec tout ce qu'elles renferment, et que tous les arbres de la forêt pleurent. Non, poussent des cris de joie. On peut avoir des cris de joie. Poussent des cris de joie car devant l'Éternel, car il vient. Il vient. Donc les arbres peuvent avoir de la joie et peuvent pousser vraiment des cris de joie. Et si vous prenez Ésaïe 55 encore, puisqu'on a vu dans le chapitre 10 que les arbres gémissent, mais quand le Seigneur aura délivré la terre de cette malédiction, du joug de la corruption auquel elle est assujettie, eh bien, il est dit au chapitre 55, verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Mais ça, c'est... Il y a la vie, il y a une expression là, quelque chose. Les arbres de la campagne battront des mains au lieu de l'épine, parce qu'on a vu que on a voulu que les épines règnent, hein, mais un jour les épines ne régneront pas, au lieu de l'épine croîtra le cyprès. Et qui est le cyprès? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui remplira toute la terre, hein. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, et pour nous chrétiens il sera déjà comme un cyprès vert, selon Osée 14, hein, je serai pour toi, pour vous, comme un cyprès vert. Mais au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Voilà. Voilà, et qui nous redonne confiance et courage. Alors que nous pensons aussi à nos forêts, bien nos forêts ne finiront pas dans la ruine, le Seigneur saura restaurer aussi tout cela. Et pour terminer ce soir, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, je vais seulement vous donner quelques jalons pour que vous puissiez étudier un autre arbre qui est le térébinthe. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre du térébinthe. Vous savez ce qui donne le térébinthe, hein? C'est pas bien malin. La térébenthine. En premier lieu, il donne aussi d'autres choses, hein, mais le térébinthe donne la térébenthine. Bon, alors, il y a beaucoup de térébinthe. C'est un arbre qui est très robuste, c'est un arbre qui est majestueux, et on aime à se reposer sous son ombre. On trouvera des gens assis sous les térébintes. Mais attention quand on s'assied, hein, sous un térébinte. Il ne faut pas peut-être y rester trop longtemps pour ne pas faire une mauvaise rencontre. Alors, je vous donne 7 points simplement. Vous pouvez noter, puis vous méditerez. Parce que si je viens à vous, c'est simplement pour vous donner un peu de nourriture. Mais pas tout pour ce soir, hein, mais vous allez y penser. Et ça vous donne des pistes de réflexion que vous défrichez, puis vous en faites des avenues. Il y avait d'abord un térébinthe près de Sichem, chapitre 35. Il faut commencer par là. J'en ai déjà parlé hier. Qu'est-ce qu'on a creusé au pied du térébinthe de Sichem? On a fait un trou, puis qu'est-ce qu'on y a mis? Les idoles. Hein? Alors, commençons par là. Chapitre 35 de la Genèse, verset 4. Voilà notre Jacob qui revient au pays de ses pères, et Dieu lui parle, et lui dit, eh bien, maintenant tu vas monter à Bethel, mais avant... enlève toutes les idoles. Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc il savait quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. parmi nous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob, alors si nous voulons vraiment avoir un culte qui soit agréable au Seigneur, élevé en autel, eh bien, débarrassons-nous de nos idoles. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Alors, le térébinthe, c'est le lieu où on a enterré les idoles. Là, eh bien, ce térébinthe me parle de ce que je dois faire. Il y a un térébinthe, là. Est-ce que tu as une idole dans ton cœur? Dans le trou. Hein? Je vais me débarrasser de mes idoles. Mais qu'est-ce que c'est mes idoles, hein? Moi, je les connais, peut-être les miennes. Moi, je ne sais pas quelles sont les vôtres. Mais ce qui prend une place dans mon cœur, à la place du Seigneur, c'est une idole, ben, dans le trou. Ça, c'est la première leçon du térébinthe. Mais quand vous avez fait cela, ben, c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez jusque dans les juges, au chapitre 6. Puis vous voyez un homme qui travaille, qui est déprimé parce que ça va pas, il y a des incursions, des madianites, et ils ont l'air de travailler pour le néant. Quand ils ont fait ils sont prêts de prendre la récolte, voilà les pillards qui viennent. Et puis notre pauvre Gédéon, il est découragé. Et vous comprenez combien Jésus parlait contre l'hypocrisie. Cette hypocrisie des pharisiens, ils disaient, mais ils ne vivaient pas. Et le Seigneur connaissait leur pensée. Vient l'ange de l'Éternel. Et il s'assit où? Sous le térébinthe. C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même, le térébinthe d'Ophra. On a vu le térébinthe, là, qui est près de Sichem. Ici, on voit le térébinthe d'Ophra. Et l'ange de l'Éternel s'asseye sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait le froment auprès soi pour mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Là, sous le térébinthe, une fois que vous avez enseveli vos idoles sous un autre térébinthe, le Seigneur peut vous apparaître sous un térébinthe. Et il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Hein? C'est ces questions qu'on se pose. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, une chose comme ça hein? ?» Puis tu nous dis que tu es avec nous. Eh bien, « Et où sont tous tes prodiges, les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte ?» Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre la main des Madians. Et l'Éternel se tourna vers lui et il lui dit « Va avec cette force que tu as. » Mais c'est pas moi qui t'envoie. Ben, vous savez, j'avais 14 ans, quand une Anglaise, une vieille Anglaise, je venais de me convertir. On était un petit groupe assis par terre dans la paille, dans un camp. Et puis, elle nous regardait comme ça, puis elle nous parlait, elle nous enseignait. Puis elle m'a regardé comme ça aussi.
Puis elle m'a dit avec son accent, va avec cette force que tu as. Je me souviens toujours de ce verset. Tu as. Une miss anglaise. Oui. Eh bien, c'est vrai. J'avais 14 ans. Mais... Oui, c'est ces paroles qui vous restent dans le cœur. Hein. Et combien de fois ça m'a aidé. Quelle force que j'avais, j'en avais pas. Hein. Mais l'Éternel me regarda. Et elle me dit, va avec ça. Tout ça, ça se passe sous le térébinthe. Voilà les leçons du térébinthe. Mettez vos idoles. Il s'était détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils. Quand tu as mis tes idoles sous le térébinthe, le Seigneur lui-même est devant tes yeux et c'est lui qui va donner la force à Gédéon pour faire les choses merveilleuses. Puis maintenant, vous pourriez aller dans le chapitre 17 de Samuel, comme aussi dans le chapitre 21 du premier livre de Samuel, et vous apprenez que David, où est-ce qu'il a tué Goliath ? Dans la vallée des Térébins. Goliath a été tué dans la vallée des Térébins. Chapitre 17 de Samuel, verset 2, comme aussi quand il va chercher l'épée de Goliath quand il va chez le sacrificateur, au chapitre 21, verset 9, bien le sacrificateur lui dit, oui, il y a l'épée, tu veux une épée, il a pris les pleins de propositions, mais tu veux encore l'épée, bien voilà, je te donne l'épée de Goliath que tu as tué à la vallée des Térébins. C'est bien à la vallée des Térébins qu'il y a eu la victoire d'un petit David sur un grand Goliath. Vous comprenez ? C'est beau de se souvenir là. Les Térébins vous rappellent que Dieu peut faire beaucoup avec le peu de force que vous avez. Va avec la force que tu as. Et le petit David, quand il est allé vers Goliath, quelle force est-ce qu'il avait ? Moi, je viens au nom de l'Éternel. Mais Goliath était immense. Eh bien, c'est David qui a gagné dans la vallée des Térébins. Là, vous pouvez étudier plusieurs vallées, la vallée de Baca, la vallée des Térébins, la vallée d'Accor. Il y aurait toutes sortes de choses de prolongement à faire. Maintenant, alors, il faut faire aussi attention à certains Térébins. Quand nous sommes en conflit avec nos parents, qu'est-ce qui a été pris par un Térébin? Absalom, oui. C'est pas simplement parce qu'il avait une grande chevelure qu'il a été pris. Il est dit que sa tête a été prise parce que les térébins ont beaucoup de branches. Hein. Il a été pris dans sa tête a été prise dans les branches du térébin et il a été pendu par la tête. Et comme il était sur un mulet, le mulet a continué la course. Et puis le pauvre Absalom, il a été pendu par la tête, par les branches du térébin. Et malgré que David avait dit à ses soldats de ne pas tuer Absalom, eh bien, Joab l'a transpercé de ses javelins. Mais pourquoi ? Absalom s'était révolté contre son père et il avait voulu tuer son père. Et c'est lui qui est mort. On ne se moque pas des enseignements des parents. Alors, le térébinthe, là, a été employé et, hélas, Absalom est mort. 2 Samuel 18, versets 9 à 10, si vous voulez lire encore quelque chose au sujet du térébinthe. Mais maintenant, alors, vous arrivez dans les rois, au chapitre 13, verset 14, où vous voyez un prophète, qui est un homme de Juda, et qui est envoyé pour parler à Jéroboam, en Samarie, et il lui annonce, n'est-ce pas, que Dieu va juger Samarie à cause de tous ses péchés. 1 Rois, chapitre 13. Mais il avait reçu l'ordre précis de Dieu. Et vous savez, il faut faire très attention quand Dieu nous parle. Hein. Verset chapitre 13 du premier livre des Rois. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Jéroboam avait mis des veaux qu'on adorait à Bethel. Et il cria contre l'Éternel, donc le prophète, car la parole de l'Éternel, et il, par la parole de l'Éternel, il dit, ôtel, ôtel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, 150 ans avant, hein, il a dit ça. Il immolera sur toi les prêtres du haut lieu et qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, qu'il avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, qu'il avait étendue contre lui, devint sèche et il ne put la ramener à lui. Et l'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Donc c'était vraiment un homme de Dieu hein, qui était employé là. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc vous voyez, tout l'itinéraire était donné à cet homme de Dieu. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc il a bien obéi. Mais voilà, il y avait eu des gens qui ont entendu ce que l'homme de Dieu avait fait et en particulier des jeunes gens et qui avaient pour père un vieux prophète et ils sont venus raconter à leur père ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, et ses fils donc lui racontent toutes ces choses, verset 11, et vous lirez vous-même, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé, cet homme de Dieu qui était de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne, et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus, et il alla après l'homme de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il l'a trouvé? Il l'a trouvé assis où? Sous un térébinthe. Voilà. Voilà le piège. Au lieu de continuer sa course, il veut se reposer, il se met sous un térébinthe. Il s'asseye là sous le térébinthe. Et puis le vieillard l'a donc rattrapé comme ça. S'il avait continué, il ne l'aurait pas eu. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi dans ma maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis pas retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de ton pain, je ne boirai point de ton eau. Et c'est bien ça le sang, n'est-ce pas? Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, mais moi aussi je suis prophète. Alors faites attention à cela, parce que vous aurez toujours des gens sur votre chemin qui viendront vous dire, autre chose que ce que le Seigneur vous a dit. Alors n'écoutez pas ça. Faites attention, souvenez-vous du térébinthe, là, du vieux où le vieux prophète a trouvé cet homme. Souvenez-vous de cela. Les arbres nous enseignent. J'étais assis sous un térébinthe. Je méditais sur ce que Dieu m'avait dit. Puis voilà un homme qui vient me dire, mais dis donc, moi aussi je suis homme de Dieu. Et je te demande de venir. Et il dit, Dieu m'a parlé, et c'était un menteur. Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive. Il lui mentait. Faites attention aux hommes de Dieu qui mentent. Dieu peut, s'il vous a parlé, vous pouvez garder sa parole. Si quelqu'un vient vous dire, mais moi aussi je suis un homme de Dieu, mais Dieu m'a dit pour toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Dieu prend pas des intermédiaires comme ça. Il vous parle à vous directement. Et ce qu'il vous a dit, vous pouvez le croire. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, même si c'est un vieux prophète, même si c'est moi. Si je venais à vous dire quelque chose de contraire à ce que vous avez dans le cœur reçu du Seigneur, chassez-moi. Comprenez-vous ? C'est ça, vous devez avoir des convictions, vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et personne ne doit venir entre vous et le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'écouter les uns les autres, n'est-ce pas ? Collaborer, ça c'est une chose. Mais Dieu ne peut pas me dire à moi exactement le contraire de ce qu'il vous a dit à vous. Ce que moi je peux vous dire, dans votre cœur, vous devez trouver la confirmation de ce que vous aviez déjà compris. Comprenez-vous ? C'est ça. L'autre jour, je prêchais en Europe, et il y avait une personne qui était très spirituelle, et je l'entendais à la fin de mes phrases qui disait « Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Seigneur. » Elle ne disait pas ça très fort, hein. Mais je sentais une correspondance. Elle m'a dit après, les paroles que vous disiez, eh bien, je les entendais résonner dans mon cœur. C'était la confirmation de ce que le Seigneur m'avait dit. Alors là, hein, vous sentez qu'il y a une unité de l'esprit. Moi, je ne la connaissais pas, cette femme, je ne l'avais jamais vue. Eh bien, voilà ce que le Seigneur fait. Si c'est un message de Dieu, c'est peut-être pas nouveau, mais ça confirme ce que lui-même vous aura dit. Et si c'est tout le contraire de ce qui vous a dit, vous pouvez être sûr que c'est un mensonge. Parce qu'il y a des prophètes de mensonges. Et il a résisté au roi, hein, mais il n'a pas résisté au vieux prophète. Attention au vieux prophète sur votre chemin. Attention au vieux prophète. Parce que vous savez ce qui est arrivé, hein. Il a désobéi, il a été mangé, et puis pendant qu'il mangeait, alors le vieux prophète a dit, tu vas mourir, le lion va te tuer sur le chemin. Et c'est ce qui est arrivé, on a trouvé l'homme mort. Mais le lion n'a pas tué l'âne. Parce que les lions sont au service de Dieu. Alors, le lion a tué l'homme, mais il ne l'a pas mangé, mais il n'a pas tué l'âne. Et il n'a pas mangé l'âne. L'âne a été épargné. L'âne n'avait pas péché. Comprenez-vous ? C'est cela. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait peur des lions ? Ils exécutent la volonté de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire, peut-être, hein, du missionnaire il y a 3 ans ou 4 ans, en Afrique, qui s'est trouvé, c'était un noir, il venait d'évangéliser une contrée, et puis voilà que tout d'un coup, il se trouve entouré de lions. Il y en avait un qui venait comme ça, il y en avait un qui venait comme ça, il était coincé, il y en avait un derrière lui, t'entendais. Il était perdu, le pauvre. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il les a évangélisés. Il a dit, vous êtes des lions, mais moi je suis serviteur de Dieu, et vous aussi vous êtes au service de Dieu, vous ne devez pas me dévorer, parce que j'annonce l'évangile. Puis il leur a parlé. Puis les lions, fichent le sang comme ça. Chacun de son côté. Et elle est vraie, cette histoire. Les lions sont au service de Dieu. Et ils comprennent l'évangile. Et si je vous disais, il y en a qui étaient au camp cette année, hein, l'année passée, sur le Cantique des Cantiques. Hein. Et vous savez qui écoute le Cantique des Cantiques maintenant ? Il y a un paysan et qui, pour pouvoir pas perdre de temps, puis bien écouter le Cantique des Cantiques, a acheté pour sa grande écurie où il a un tas de vaches, il a acheté des haut-parleurs, il les a mis de tous les côtés, et puis, pendant qu'il traite, il écoute le Cantique des Cantiques. Et les vaches sont une recueillie, il paraît qu'elles ont toutes les oreilles. Hein, comme... Elles écoutent le Cantique, et le lait est meilleur. Oui, c'est le père de Jean-Claude. Ils étaient à la conférence. Les vaches écoutent le Cantique des Cantiques. J'ai jamais pensé que je prêcherais pour les vaches. J'ai gardé les vaches. Mais c'est vrai, mes amis. Moi, j'ai trouvé ça admirable. Laissez au parleur dans une écurie et écouter le Cantique des Cantiques pendant qu'ils font leur truc. Eh bien, c'est magnifique. Donc, vous voyez, l'évangélisation, comment ça peut se faire. Même au milieu des vaches. Et il me dit, les vaches sont tranquilles, elles sont recueillies. sont des enfants de ton fils des cantines. Que tu es belle. Mais c'est quand même très beau. Vous savez qu'on est gâté, on peut rire aussi. Le Seigneur, on dit que le Seigneur n'a jamais ri, mais qu'est-ce qui vous dit ça? On dit qu'il a pleuré, oui, mais quand il prenait les enfants dans ses bras, vous pensez bien qu'il ne leur faisait pas des grimaces. Il souriait, il était accueillant, alors on n'avait pas peur de lui. Tout n'est pas dit dans l'Écriture. Alors, souvenez-vous de cela, hein, le vieux prophète, ça c'est très important cette leçon, vous allez la lire. Et puis, alors, vous arriverez dans Ésaïe, chapitre 1er, et vous verrez que ce qu'on avait fait des térébintes, eh bien, au lieu que les térébintes soient des arbres qui louent, qui glorifient Dieu, on adorait ces arbres. Hein. On en avait fait des espèces de sanctuaires. Chapitre 1er d'Ésaïe. Alors, au verset 29, où il est parlé de cet Israël qui a abandonné l'Éternel, eh bien, au verset 29, il est dit, quand il y aura le jugement, on aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Parce qu'on préfère se faire des jardins à soi, son petit milieu à soi, que d'aller dans le lieu du Seigneur. Car vous serez comme des térébintes au feuillage flétri. Alors là, je vous pose une question. Chapitre 1er d'Ésaïe, verset 29. Est-ce que nous serons des térébintes au feuillage flétri demain? Ou bien est-ce que nous ferons l'expérience du Seigneur comme un jardin qui n'a pas d'eau? L'homme fort sera comme de l'étoupe, son œuvre sera une étincelle, ils brûleront l'un l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Alors, vous ne voulez pas finir par là, hein. Mais je vous signale qu'on peut être des térébintes flétris. On n'a pas d'excuse pour être un térébintes flétri. Et alors, et ça, c'est la parole que je vous laisse pour clore et montrer combien c'est beau que nous pourrons réaliser demain, chapitre 61 d'Ésaïe, avec vos enfants, avec tous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Comment est-ce qu'on viendra? Avec un vêtement de louange demain ou un esprit abattu? Afin qu'on les appelle des térébintes. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce qu'on peut être. Voilà, si vous voulez étudier un peu les térébintes. Une plantation de térébintes, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Non pas des térébintes flétries, mais des térébintes qui sont une vraie plantation. Pas seulement un ou deux térébintes, mais toute l'assemblée sera une plantation de qui? De l'Éternel. Parce que chacun de vous, vous avez pris conscience que vous avez été planté par le Seigneur. Le Seigneur vous a planté. Tout arbre, toute plante que le Seigneur n'a pas plantée sera déracinée. Mais ça, c'est une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors nous allons nous séparer maintenant. Et puis, eh bien, nous penserons à Abraham qui était assis sous un chêne. Nous penserons à Déborah qui était assise sous un... Quel arbre? Palmier. Vous pourrez encore penser à ça. Chapitre 4 des Juges. Abraham sous un chêne, chapitre 18 de la Genèse. Déborah, une femme, était assise sous son palmier. Et puis, on allait la trouver... sous le palmier, tout ce que le palmier peut nous dire. Le Seigneur assis sous le térébinthe d'Ophra, mais aussi l'homme de Juda, qui s'est assis sous le térébinthe puis qui a écouté le vieux prophète. Maintenant, vous trouverez aussi Saül, qui est assis sous un grenadier, lui, ou sous un tamarisc, on le trouve deux fois assis. Et puis, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, elle était assise sous le pommier. Je me suis, mon bien-aimé est comme le pommier entre les arbres de la forêt, c'est les monts, bien-aimé, hein. Je me suis assise à son ombre, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Et alors demain, eh bien, nous pourrons terminer un petit peu cet aperçu sur les deux qui nous restent, enfin il y en aurait d'autres, mais au fond, ce que j'ai à cœur de vous dire, la vigne et le figuier, parce que dans le royaume, on sera assis chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voilà aussi où on peut être assis, hein. Dans la paix, on sera assis chacun sous sa vigne et sous son figuier. Seigneur, nous voulons te bénir et te demander qu'il nous reste quelque chose de ce voyage à travers l'écriture où tu nous parles par les arbres, tu nous donnes beaucoup de leçons et nous voulons les repasser dans nos cœurs comme le faisait Marie, ta mère bénie, que nous disons bienheureuse parce que justement elle croyait ces choses. Ton bien-aimé fils l'a dit à cette femme qui disait « Heureuse le sein qui t'a allaité, heureuse les entrailles de celles qui t'ont porté. » Et tu as dit « Plus heureux encore sont ceux qui écoutent ma parole. » Et c'était bien Marie. Elle avait écouté la parole. Elle avait dit « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Voilà pourquoi elle était bien heureuse. Bien, nous voulons te demander qu'ayant écouté ta parole, comme Marie, nous la repassions dans nos cœurs, sachant que ton esprit sera notre mémoire et qu'il nous rappellera les choses que nous avons entendues, peut-être dans la vie quotidienne, mais quand nous serons à nos travaux les plus séculiers, tu nous rappelleras une parole qui deviendra lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, qui nous donnera une direction et qui nous influencera pour prendre une décision qui sera tout à ton honneur et à ta gloire. Nous voulons nous laisser enseigner par toi et nous voulons te bénir pour les richesses de ta parole. Nous les recevons dans nos cœurs et nous te demandons qu'elles puissent nous transformer et que nous sachions que nous sommes des arbres que toi tu as plantés et que s'il y a du fruit dans nos vies, c'est par ta vie qui veut se manifester en chacun de nous. Pour la gloire du Père au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on sait cela, n'est-ce pas, quand on a cela vraiment fixé dans notre sensibilité, on dit non à la division. Et vous voyez, ils ont pris parti pour le méchant, ils n'ont pas jugé les habitants de Gibéa, et puis ils ont profité des hommes d'élite, parce qu'on trouve toujours des appuis pour la chair. Et maintenant, vous pourriez aussi méditer comment vraiment, il y a toute cette gradation, Israël a été ramené au Seigneur, petit à petit, ils ont recherché la présence du Seigneur, ils se sont mis à pleurer jusqu'au soir, et puis après, ils ont été plus loin, ils ont même jeûné, et puis ils ont accepté la volonté de Dieu. Peut-être que nous ne devons pas monter. Alors, ils étaient prêts pour le dernier combat. Et ils ont été unis. Et alors, le chapitre 21, maintenant, les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Alors le peuple revint maintenant à Bethel. Ils ont eu la victoire, mais tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a une brèche. Une brèche a été faite en Israël. Et alors on va commencer de voir le relèvement. Mais comment est-ce qu'ils vont se relever? Le peuple revient à Bethel, où ils ont consulté Dieu. Il resta devant Dieu. Vous voyez, il y a toujours ce jusqu'au soir. Il resta devant Dieu jusqu'au soir. On commence de retourner dans la présence de Dieu. Malgré nos occupations, on commence à comprendre que Au fond, c'est de la présence de Dieu qu'il nous faut. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes. Alors, on pourrait parler des larmes dans le livre des Juges, mais des larmes à travers toute la Bible. Des larmes, devant les larmes, le Seigneur est compatissant. Il met vos larmes dans ses vaisseaux, il les recueille. Elles sont toutes écrites dans son livre. Et ils dirent, ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Vous voyez, on devrait se demander pourquoi avant de faire les choses. Mais maintenant, une fois qu'on a fait les choses, puis qu'on voit les conséquences, on se dit, mais pourquoi? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel. Mais c'est un autel pour une idole? Non, c'est un autel au Seigneur. Il y a une restauration. Ils reviennent à l'autel, comme Gédéon avait construit un autel, vous voyez. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, non plus à des idoles, mais au vrai Dieu. Et ces sacrifices d'action de grâce sont offerts par le sacrificateur Phiné, puisque c'est à Bethel. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui de toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. Alors ils se souviennent de cela. Les enfants d'Israël éprouvaient du retentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Alors ils se posent la question, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles pour femmes? Alors, tout à coup, bien, ils ont une espèce d'illumination. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp à l'assemblée. En fil dénombrement du peuple, il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors, l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre, allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès de Galade, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vous dévorez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent au camp à Silo, qui est au pays de Canaan, où serait donc finalement le tabernacle. Toute l'assemblée envoya les messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimmon et pour leur annoncer la paix. Vous voyez quand même pour ces gens-là, avoir cette nouvelle, la paix, c'est quelque chose. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Alors les deux, le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin. Car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent, que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Vous voyez là, ils se souviennent quand même qu'il y avait que c'est grave de jurer. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné à ne pas faire de vœux, à ne pas jurer que votre oui soit oui, que votre non soit non, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Mais maintenant, on se dégage de n'importe quel serment. Et on jure sur la tête de sa femme, de sa fille, de sa mère, de je ne sais trop qui. Vous les entendez aujourd'hui, hein?